Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 octobre 2014, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington, chez Rubin Dorcil et Morgane Guériec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, mort du premier patient atteint d'Ebola sur le sol américain.
En Centrafrique, de nouvelles violences font plusieurs morts dans la capitale, Bangui.
Cette nouvelle tension intervient alors que l'ultimatum de 48 heures lancé par les anti-Balaka à la présidente Samba Panza pour sa démission a expiré ce mercredi.
Pour la première fois, un chef d'État en fonction comparaît devant la CPI. Le Kenyan Uhuru Kenyatta a été entendu ce mercredi.
En magazine, nous ferons un tour au Bénin où le gouvernement a lancé une campagne contre le paludisme.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Le patient libérien atteint d'Ebola, le premier à avoir été diagnostiqué aux États-Unis, est décédé ce matin à Dallas. En Sierra Leone, plusieurs équipes chargées d'enterrer les victimes du virus Ebola se sont mises en grève. Elles protestent contre le retard de leur salaire, nous dit Jacques Aristide.
Thomas Eric Duncan est mort ce matin dans un hôpital de Dallas où il était en isolement depuis plusieurs jours. Il était le premier malade d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis. Au Libéria, même un membre du personnel médical de l'ONU a été contaminé après le décès d'un de ses collègues en septembre dernier. Les infirmiers libériens menacent d'entrer en grève. Ils demandent un salaire mensuel de 700 $ alors qu'ils ne perçoivent pour le moment que 400 $ par mois. En Sierra Leone, les fossoyeurs sont entrés en grève. Ils sont censés recevoir chacun 100 $ par semaine pour inhumer jusqu'à 35 corps par jour. Ils affirment n'avoir pas été rémunérés depuis le mois de mai. Les grévistes réclament également une prime de risque parce que, disent-ils, les dépouilles demeurent contagieuses même après le décès des malades, prime que les autorités leur ont refusée jusqu'à présent. Sidi Yaya Tunis, un porte-parole du ministère de la Santé, a parlé de situation très embarrassante. Il promet que les salaires seront payés cette semaine. La Banque mondiale a estimé ce mercredi que le coût de l'épidémie en Afrique de l'Ouest pourrait atteindre 32,6 milliards de dollars d'ici l'an prochain si Ebola se propage au-delà de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone.
Selon certaines sources, le personnel médical en Sierra Leone aurait repris le travail. En RCA, forte tension à Bangui, où au moins 4 personnes ont été tuées dans des violences. Les activités étaient totalement paralysées aujourd'hui. Le point avec Idriss Fall.
La situation était encore tendue malgré la présence des troupes onusiennes. Hier soir, un homme soupçonné d'appartenir à l'ex-coalition Seleka a été lynché et brûlé au quartier Gobongo. Il avait été accusé d'avoir lancé une grenade sur des civils, tuant une personne et blessant plusieurs autres. Ce matin, au PK5, dans le 3e arrondissement, des musulmans mécontents ont exhibé le corps calciné devant le siège de la MINUSCA en tirant des coups de feu en l'air. Un chauffeur de taxi a été tué au kilomètre 5 où des maisons et des commerces ont été incendiés le long de l'avenue Barthélémy Boganda. Cette nouvelle tension intervient alors que l'ultimatum de 48 heures lancé par des anti-Balaka à la présidente Samba Panza pour sa démission a expiré ce mercredi.
Le président kényan Uhuru Kenyatta est devenu aujourd'hui le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Camille Gros-Didier.
Souriant et détendu, Uhuru Kenyatta est apparu à une audience qui déterminera la date de son procès ou bien entraînera le report sine die de la procédure. Son avocat Stephen Kay a plaidé pour l'abandon des poursuites contre lui. Il a le droit de revendiquer un non coupable, a martelé Maître Kay, ajoutant que s'il y avait des preuves, nous aurions un procès. Fatou Bensouda, procureur de la CPI, avait accusé les autorités de Nairobi d'avoir refusé de livrer les relevés téléphoniques, fiscaux et bancaires de M. Kenyatta pour étayer l'accusation. En plus, ces derniers mois, beaucoup de témoins se sont rétractés. Uhuru Kenyatta est accusé pour son rôle présumé dans les violences post-électorales au Kenya fin 2007 et début 2008, qui avaient fait au moins 1100 morts et quelques 650 000 déplacés.
Rapatriement des 9 casques bleus nigériens tués vendredi au Mali, les corps des soldats onusiens décédés dans une attaque des djihadistes sont arrivés ce matin à Niamey. Leurs obsèques ont été organisées en présence des autorités et de leurs parents, nous dit Abdulrazak Idrissa.
Il y avait le président de la République, le premier ministre, les responsables militaires, mais aussi et surtout les parents, amis et compagnons d'armes des 9 soldats. Le ministre de la Défense, Karijo Mahamadou, leur a rendu un dernier hommage.
Soldats de la paix, vous êtes tombés au champ d'honneur dans votre quête devenue aujourd'hui traditionnelle de protéger et défendre les valeurs démocratiques et de sauver l'homme partout où sa vie, sa survie et ses biens sont menacés.
Les 9 casques bleus ont été décorés à titre posthume par les autorités nigériennes, décoration posthume également des autorités maliennes. Les 8 qui sont des musulmans ont été enterrés dans la matinée au cimetière musulman et le 9e qui, lui, chrétien, a été inhumé dans l'après-midi au cimetière chrétien de Niamey.
Que vos âmes reposent en paix.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Les Nations Unies font état d'une recrudescence des activités des rebelles de la LRA en République démocratique du Congo. D'après l'ONU, ces rebelles ougandais opérant en petits groupes s'illustrent par des kidnappings et des pillages dans le nord-est de la RDC, notamment dans les districts du Bas et Haut Ouélé, en province orientale. Le colonel Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, a cependant estimé que la LRA n'avait plus sa capacité de nuisance au Congo d'il y a 2 ou 3 ans.
Le Nigeria accuse l'Afrique du Sud de bloquer une commande d'armes de 5 700 000 dollars. C'est ce qu'indiquent les autorités. Abuja met en garde. Une poursuite du blocage aura des conséquences sur les activités des grandes entreprises sud-africaines au Nigeria et des répercussions sur les relations entre les deux pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les milices kurdes ont repoussé les combattants de l'État islamique de Kobané à la frontière turque. Le répit est intervenu à la suite de frappes aériennes sous commandement américain, nous dit Jean-Roger Billon.
D'après l'armée américaine, les forces de la coalition ont mené des frappes aériennes depuis 2 jours qui ont détruit des pièces d'artillerie anti-aérienne, des points de contrôle et des bâtiments. Les combats pour le contrôle de Kobané durent depuis 3 semaines et se sont intensifiés ces derniers jours. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme basé à Londres affirme que la bataille de Kobané a fait au moins 400 morts. Les djihadistes avaient brièvement pris le dessus après avoir abattu un hélicoptère de l'armée irakienne. Les forces kurdes ont demandé un peu plus de soutien international contre l'État islamique qui a conquis de gros pans de territoire en Syrie et en Irak cette année.
Signalant aussi que les États-Unis et le Royaume-Uni sont prêts à examiner l'idée de créer une zone tampon entre la Syrie et la Turquie. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue britannique Philip Hammond lors d'une conférence de presse. Le principe de cette zone tampon a également le soutien du président français François Hollande.
Au moment où la coalition internationale menée par les États-Unis continue ses raids aériens contre les positions des djihadistes en Irak, l'armée irakienne a subi de nouvelles pertes aujourd'hui dans le nord du pays. L'un de ses hélicoptères a été abattu et ses 2 pilotes ont été tués. L'Irak a reçu l'année dernière 30 hélicoptères américains conçus à des fins commerciales, mais pouvant être armés de mitraillettes et missiles.
Violence et confusion politique au Yémen au lendemain de la nomination d'un premier ministre rejeté par la rébellion chiite. Des attaques attribuées à Al-Qaïda ont fait 10 morts selon l'AFP. Les rebelles d'Ansarullah accusent le président Abd Rabo Mansour d'avoir choisi Ahmed Awad Ben Moubarak, un technocrate de 46 ans, au mépris de la volonté populaire.
Les Nations Unies estiment à 331 le nombre de morts enregistrés dans l'est de l'Ukraine depuis le cessez-le-feu du 5 septembre dernier. Selon le haut-commissaire pour les droits de l'homme, au moins 3 600 personnes ont été tuées et près de 9 000 blessées dans le conflit ukrainien de mai à octobre de cette année. Hier, les combats ont fait 12 morts et aujourd'hui, 8 civils ont été tués à Donetsk.
En Afghanistan, les autorités ont exécuté par pendaison 5 hommes accusés de viol collectif. L'ordre avait été signé par l'ancien président Hamid Karzai le mois dernier avant son départ. Les groupes de défense des droits humains ont demandé, sans succès, au nouveau président Ashraf Ghani de reporter l'exécution.
Affrontements transfrontaliers dans la région du Cachemire, selon New Delhi. Au moins 2 civils sont morts et 18 autres blessés hier soir. Les médias pakistanais font état de 3 morts. Les tirs entre soldats indiens et pakistanais avaient fait 9 morts lundi et contraint des milliers de personnes à fuir leur maison.
Deux Américains, Eric Betzig et William Bonner, et l'Allemand Stefan Hell, ont reçu aujourd'hui le prix Nobel de chimie. L'Académie royale des sciences de la Suède les a honorés pour le développement de puissants microscopes pouvant détecter l'évolution des maladies dans les plus petites cellules vivantes.
Et puis, quelques mots sur l'économie américaine. Encore de bonnes nouvelles. Le déficit fédéral a chuté à son niveau le plus bas en 6 ans, soit 486 milliards de dollars pour la récente année fiscale. C'est une baisse de 195 milliards par rapport à l'exercice précédent.
Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Restez branchés pour quelques-uns des dossiers du jour. Retour Morgane sur les violences qui ont paralysé Bangui depuis hier soir.
Notre correspondant Thierry Mbomba nous fait un compte-rendu et parle aussi des conséquences de la mort d'un jeune musulman dans la capitale centrafricaine.
Le kilomètre 5 a encore été ce matin le théâtre de violences. Des maisons et boutiques pillées et incendiées, un taximan et quelques personnes tuées. Tel est le bilan provisoire qu'on peut faire des événements douloureux de ce matin. Pour Lazare Diader, président du collectif 236 et habitant le kilomètre 5, il s'agit ici d'une réponse à l'assassinat d'un musulman dans le quartier Gobongo au 4e arrondissement. Cet acte a poussé les musulmans dans la rue et a marché jusqu'au siège de la MINUSCA.
Le kilomètre 5 en ébullition depuis le matin, c'est dû à un corps qui a été emmené mais complètement calcifié. Vraiment, c'est un spectacle désolant, c'est pas pour avoir. Du coup, à la vue de ce corps, de ce compatriote qui a été tué, et dont le corps a été brûlé, et ben, l'alerte ne s'est pas fait attendre. Il y a deux morts qui sont là, jonchés sur l'avenue Bouganda, certainement dû à certaines personnes qui ne se sont pas contrôlées. Et puis voilà. Donc, il y a eu une marque. Le corps de ce musulman a été emmené jusqu'au niveau du Bonika. Et puis après, bon, ben voilà, ils ont ramené le corps. Et je pense qu'ils sont en train de prendre les dispositions.
Quant à Ibrahim Bouhari, ancien international et habitant également le kilomètre 5, tout serait l'œuvre des bandits dans les deux camps anti-Balaka et Seleka qui prennent en otage les Centrafricains et prient de paix. Il dit que tout serait parti de l'assassinat d'un élément de l'ex-Seleka basé au camp du RDOT qui, sous l'emprise de la drogue, a balancé une grenade sur une foule au quartier Gobongo. Écoutons-le.
Il y a un Seleka de RDOT hier au niveau du Gobongo, sous l'influence de Tramol. Il est parti pour jeter une grenade. Et là, il a été tué là-bas. Et là, il y a des gens du kilomètre 5 qui foutent un peu le désordre, surtout le groupe de la CEDAD, là. Donc, ils récupèrent la situation pour ramener le corps ici au kilomètre 5 et dire qu'on a tué un musulman. Et donc là, ils ont tué un taximan. Ils font une marche, ils brûlent des voitures, ils brûlent des maisons. Donc, ils ont profité de la situation, en fait.
Notons qu'après cela, tous les conducteurs de taxis et bus sont rentrés en grève. Bangui, Thierry Bomba pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'attaque d'hier contre une base de la MINUSMA à Kidal. Un casque bleu sénégalais a été tué.
Les 9 soldats nigériens tués vendredi près de Gao ont été inhumés aujourd'hui à Niamey. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, demande à l'ONU d'envisager le déploiement d'une force d'intervention rapide dans le nord du Mali. Pour un rappel sur ce qui s'est passé à Kidal, Idriss Fall a joint sur place notre correspondant Assikadey Ag Warzagan.
Et hier à Kidal, le camp où se trouvent les forces tunisiennes et puis les forces barkanes a reçu des roquettes. Vers 18h moins quelques minutes, le camp sûrement a été l'objet de tirs de roquettes venant de l'est de Kidal où se trouve ce camp-là. Et ces tirs ont fait un mort et quelques blessés. Le mort, c'est un casque.
Ces derniers temps, on voit une multiplication des attaques attribuées aux islamistes.
Effectivement, ces derniers temps, quand même, il y a une recrudescence des attaques attribuées effectivement aux islamistes. Depuis le départ maintenant, après Adelok, et tout récemment, à peine moins d'une semaine, c'était Gao. Hier, c'était effectivement le camp de Kidal où se trouvent les forces tunisiennes et puis les forces barkanes.
Est-ce que les islamistes, ils ont changé de mode opératoire? Comment ils font maintenant?
Je crois que les islamistes, ces derniers temps, ont changé de mode opératoire. Ce n'est plus le 4-4 comme ils le faisaient auparavant. Maintenant, c'est les agents de deux roues, les familles et d'autres moyens peut-être qu'ils utilisent soit à pied, soit aussi en utilisant la traction. Les animaux, disons les chameaux, voire même quelquefois les ânes.
Est-ce qu'on sent leur présence autour de Kidal?
Leur présence aujourd'hui autour de Kidal, ça se sent bien. Parce que dans les brousses, aujourd'hui, souvent les gens sont kidnappés, sont tués pas loin de Kidal. Plus tard qu'avant-hier, un homme a été froidement assassiné chez lui dans son campement.
Est-ce qu'on a des nouvelles de celui qu'on appelle Iyad Agali depuis sa disparition?
Iyad, de façon claire, on n'a pas de ces nouvelles, mais seulement par rapport à ce qui se passe, les gens prétendent qu'il ne doit pas être loin, mais ce qui est sûr et certain, il n'est pas cité de façon directe, mais à travers ce qui se passe, on trouve que c'est des actions de djihadistes.
Assikade Yagouarzagan, notre correspondant à Kidal, dans le nord du Mali.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nouveau point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Au menu, une série de reportages sur le drame humain que provoque la crise. Faites-nous part de vos témoignages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Au Bénin, le gouvernement se bat contre le paludisme qui tue 2 enfants chaque minute. Les autorités béninoises ont promis plus de 6 millions de moustiquaires gratuitement aux populations, une opération appréciée par les bénéficiaires. Suivant le reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Pour vaincre le paludisme qui ne finit pas de faire des ravages dans le rang des populations, le gouvernement béninois a choisi de distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux Béninois. Cette opération, qui en est à sa 3e édition cette année, a pour objectif d'amener 86% au moins des Béninois à dormir effectivement sous moustiquaire. Aboubacar Mofalilou, directeur adjoint de cabinet au ministère de la Santé publique.
Le paludisme continue d'être une maladie épidémique dans notre pays. Il faut savoir qu'un enfant meurt toutes les 30 secondes de paludisme dans notre pays. Il en est de même chez les femmes enceintes, chez qui le paludisme constitue d'être une grande cause de mortalité. Et vous savez que pendant les saisons de pluie, quand vous allez dans nos services de pédiatrie, généralement, nous avons beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés et qui ont besoin de transfusions sanguines. Donc voilà toutes les raisons qui font que le paludisme, un problème de santé publique dans notre pays pour lequel il faut que nous prenions des mesures hardies. Et c'est dans ce cadre-là que la 3e édition de campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action a été pensée et lancée par le gouvernement du Bénin.
Eu égard au comportement peu recommandable de certains bénéficiaires lors des campagnes précédentes de distribution gratuite de moustiquaires qui n'hésitent pas à vendre les moustiquaires reçus, le directeur adjoint de cabinet a dit prendre des mesures pour empêcher le forfait. L'une de ces mesures passe par la sensibilisation. Aboubacar Mofalilou.
Effectivement, cette campagne de sensibilisation a eu lieu au cours de laquelle nous avons passé l'information aux populations pour leur faire comprendre la nécessité d'utiliser ces moustiquaires à bon escient. Les moustiquaires ne sont pas destinés à être vendus à Dantokba ou ailleurs. Les moustiquaires ne sont pas destinés à être utilisés comme pour clôturer des jardins, des trucs comme ça, ou bien comme filet de pêche.
L'opération est bien appréciée des Béninois, surtout de la part des femmes, qui trouvent même le moyen de donner des conseils à leur sœur.
Je salue cette initiative qui est très noble et qui permet aux plus nécessiteux, à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les moustiquaires, d'en avoir, de se protéger et de protéger leur petite famille contre les moustiques qui sont source de maladies. Je trouve que c'est le seul moyen aujourd'hui qui permet de lutter efficacement contre l'épidémie du paludisme.
C'est une bonne chose, ça nous aide beaucoup et surtout ça sauve les enfants. Et en plus, je vais conseiller à nos chers parents, surtout les femmes, nous les mamans, ce n'est pas nécessairement au coucher qu'il faut mettre les enfants sous les moustiquaires. Parce qu'il y a des fois, les enfants se couchent très tôt, on les met au salon, des fois dans les canapés, surtout pas. Quand l'enfant sommeille, il faudrait qu'on le mette directement sous moustiquaires.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, on parlait hier, Nicolas, de la Mauritanie. Cette fois, on en sait un peu plus sur le nom du futur sélectionneur du Ghana.
Oui, 5 candidatures ont été retenues sur les 18 déposées en septembre pour diriger les Black Stars. La Fédération ghanéenne de football a révélé aujourd'hui le nom des 5 postulants. Le Néerlandais Patrick Kluivert, l'Israélien Avram Grant, l'Italien Marco Tardelli, le Suisse Michel Pont et l'Espagnol Juan Ignacio Martinez Jiménez. La fédération ghanéenne avait annoncé le 12 septembre dernier le licenciement de Kwasi Appia à la tête de la sélection nationale depuis 2012.
Alors moi, je choisirais entre Patrick Kluivert et Marco Tardelli définitivement. Alors, autre cascade de blessures pour la Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il?
Oui, la Côte d'Ivoire affrontera la RD Congo sans son défenseur Lamine Koné et ses milieux de terrain Geoffroy Sérédier et Ismaël Diomandé. Les 3 joueurs ont déclaré forfait pour blessure. On va parler aussi des vice-champions d'Afrique burkinabè. Évidemment, Chérubin, le sélectionneur du Burkina, Paul Put, a convoqué 24 joueurs pour les 2 matchs des éliminatoires de la CAN face au Gabon. Blessé, Alain Traoré a dû déclarer forfait tandis que Moussa Yedan Darlali et de Issoufou Dayo de l'AS Vita Club reviennent.
Sanctions en Roumanie après un incident raciste.
Visé par une enquête après un incident évidemment ayant visé un joueur brésilien du club Concorda Chajna en première division lors d'un match disputé vendredi, le Rapid Bucarest devra jouer ses 2 prochains matchs à domicile sur terrain neutre. Un supporter avait en effet jeté une peau de banane en direction de l'attaquant Carlos Wellington à la fin de la partie. Ce dernier a également assuré avoir été visé durant la rencontre par des chants racistes.
Pourquoi la banane? Moi, j'ai jamais compris.
Moi non plus.
Fait tennis, tournoi de Shanghai.
Roger Federer a dû sauver 5 balles de match pour passer l'obstacle Leonardo Meyer, 7-5, 3-6, 7-6. Le Suisse est assuré de redevenir numéro 2 mondial à la place de Rafael Nadal, le Mallorquin qui a été éliminé souffrant d'une inflammation de l'appendice. Il s'est incliné face à Feliciano Lopez en 6-3, 7-6.
Et la Fédération internationale de l'automobile qui lance une enquête après le grave accident survenu dimanche au Grand Prix du Japon.
À la demande du président de la FIA, Jean Todt, le directeur de course à Suzuka, Charlie Whiting, est chargé de mener l'enquête. Jules Bianchi, victime d'un grave traumatisme crânien, a été opéré dimanche dernier à l'hôpital Yokkaichi. Il est toujours en soins intensifs.
Enfin, mondiaux de gymnastique en Chine.
Et oui, la main sur le cœur pour les Américains. Les États-Unis qui conservent leur titre de l'épreuve équipe par dames devant la Chine et la Russie.
Merci Nicolas. Du thé et du citron, ça vous fera du bien, je suppose.
Voilà, exact. Un grog.
Voilà, c'était Nicolas Pinault pour les sports. Alors, Morgane, et nous allons parler de villes inamicales. Quelle est la ville la plus inamicale dans le monde?
Il s'agirait de Johannesburg, Gabi. C'est ce qu'indique un sondage du magazine Condé Nast Traveler qui dit que cette ville est la plus hostile du monde pour les touristes. Un reportage de Darren Taylor, lu par Lionel Gaïma.
Charles Visser, écrivain et guide touristique, savoure une bière dans un bar de la banlieue de Johannesburg, fréquenté par de nombreux étrangers. Sa réaction au sondage de Condé Nast Traveler. Je pense que c'est de la foutaise absolue et totale. Reconnaissant le taux de criminalité élevé, il estime que Johannesburg n'est pas plus dangereuse que n'importe quelle autre grande ville. Vous devez être prudent, averti et tout ira bien. Suivez les conseils des habitants. Il faut toujours s'informer auprès des gens du pays. À ses côtés, Laura Tinsen, un touriste néerlandais. Johannesburg a une très bonne ambiance, il y a beaucoup de choses à voir, des gens sont gentils. Je ne me suis jamais senti en danger ou menacé comme je l'ai vécu dans beaucoup d'autres grandes villes. Simon Compella est plus nuancé. Les touristes me disent que Johannesburg est agréable, mais le problème est que le crime est trop élevé. Effractions et vols de voitures, cambriolages, il y a beaucoup de crimes ici. Dans un magasin de la zone commerciale de l'aéroport, Sydney, l'EBA dit qu'un pickpocket a volé $500 à un touriste américain sous ses yeux. Peter van de Heever, un ancien voyagiste, prend son repas dans un restaurant de tapas. Il encourage les gens à ignorer la paranoïa à propos de la criminalité dans la ville. Il y a un vieil dicton qui dit que si vous vivez dans la peur, vous ne vivez qu'une demi-vie.
Alors, merci Lionel Gaïma. Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique.
Cette émission touche à sa fin et comme tous les soirs, on termine en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Alors l'invité dans RM Show cet après-midi, ce n'est personne d'autre que l'artiste congolais Félix Wazekwa. Cet artiste musicien parolier, un mieux connu dans l'ombre de la classe musicale congolaise grâce notamment à ses collaborations avec Papa Wemba et Koffi Olomide. Ce soir, on l'écoute dans Zimamoto.
Alain Soudi, Zimamoto.
Voilà, c'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, assisté à la technique de M. Remkes.
La présentation chez Romain Dorcy et Morgan Guerriec. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
Écoutez.